Chapitre 7e. Georges de Solis, rentré chez lui, passa une nuit enfiévré, se demandant ce qu'il devait faire, avide de repartir, se trouvant là entre ces deux êtres, dont l'un, qu'il estimait, lui laissait deviner une douleur profonde, débilitante comme une plaie cachée. Et c'était lui qui, par une méchanceté du sort, causait toute cette peine qu'il partageait. Que devait-il faire? Ah, s'il n'y avait pas eu près de lui la chère femme qui ne vivait que de sa vie, comme il eût repris son existence de hasard, à l'aventure, secouant ses douleurs par les chaos de la route, comme on secourait un sac de cailloux coupants, aigus, pour les user. Partir. C'était la seule pensée bien nette qui lui vint à l'esprit, soit qu'il s'étendit dans son lit, soit qu'il se releva pour regarder à travers les vitres, sous la lune claire, la mer qui se gonflait au loin. Oui, partir. C'était ce que lui conseillait la sagesse, dans le désarroi de sa raison. Le vaste monde avait encore des solitudes pour les êtres affamés d'oubli, comme lui, ou affolés d'action comme les pionniers de l'inconnu. Mais partir, quand il savait qu'on l'aimait, était-ce de la sagesse ou de la lâcheté? Car vraiment, oui, elle l'aimait. Il l'avait bien senti, lu clairement dans ses regards. Il l'avait deviné, entendu. Et c'était lorsqu'il retrouvait Sylvia qu'il allait fuir comme autrefois, alors qu'il la croyait perdue. C'est que ce n'était point Sylvia qu'il fuirait, c'était la femme de Norton. Sa main avait tour à tour senti, à quelques minutes de distance, le frémissement peureux de la main de la femme et le loyal et sûr shake hands du mari. Oui, mieux valait se remettre en route, aller non pas au hasard, mais vers quelque but utile, et doter le monde d'une nouvelle terre ignorée ou laisser ses eaux en chemin dans quelque coin perdu d'Afrique. Mais alors, mais toujours, quand sa fièvre colère semblait se changer en résolution, une image se dressait tout à coup entre lui et le but encore vague vers lequel il voulait aller. Le visage calme, souriant, aux yeux un peu tristes, sous des cheveux gris, de la marquise de Solis, sa mère. Allait-il une fois encore la laisser seule et risquer de ne plus retrouver lorsqu'il reviendrait, s'il revenait jamais, la chair isolée? Était-ce donc la chère femme qui devait supporter ainsi, l'innocente, le contre-coup des déceptions, des souffrances de son fils? Pauvre mère. Non, se dit-il, non. Il ne faut pas s'éloigner de ceux qu'on aime quand les jours sont comptés, pendant lesquels on peut encore les avoir, les choyer, les aimer. Il resterait donc. Il ne serait plus l'errant qu'il avait été. Il resterait auprès de celle que la science de Farjas lui avait rendue. Et ce fut sur cette détermination qu'il s'endormit un peu, à l'aube, comme si le jour naissant eût alourdi ses paupières, tirées et brûlées par l'insomnie. En descendant à la salle à manger, à l'heure du déjeuner, il fut tout heureux de revoir la marquise. Il l'embrassa ainsi qu'autrefois dans le cou, comme lorsqu'il se blottissait près d'elle étant tout petit. Puis on se mit à table. Georges essaya, pendant le repas, de donner à tous ses propos un accent de gaieté qui semblait à Madame de Solis un peu factice. « Tu ne trouves pas, » dit à la fin la marquise avec un petit sourire, « que ce cristal sonne un peu faux. » Elle touchait du bout de son couteau un verre qui rendit un léger son, triste et subtil. « Oui, » ajouta la mère, « il a beau vibrer, il doit être cassé. Pourquoi me fait-il penser à ta gaieté de ce matin ?» Georges ne répondait pas. « Je ne t'ai pas eu beaucoup hier, mon cher enfant. Oh, je conçois que le temps te paraisse moins long avec M. Norton qu'avec moi. Une mère a beau être une mère, ce n'en est pas moins une vieille femme. Et ton américaine a toujours le don d'absorber ton esprit. » « Je vous jure, » interrompit M. de Solis, « ne jure pas, j'y vois très bien sans lunettes. » Le déjeuner était achevé. La marquise se leva, disant en souriant, « Et veux-tu mon avis, mon pauvre Georges ? C'est une sottise ou une folie. » Ce n'est pas une folie. Où cela te mènerait-il? Dit la mère presque brusquement. Le marquis répondit, nulle part ou très loin. Car j'ai un moment songé cette nuit à me remettre en route. Et sans vous, ma bien-aimée. Madame de Solis hocha la tête. Tu aurais repris le chemin du Tonkin ou celui du Congo. Et qui aurait payé les frais de l'aventure? Ta pauvre femme de mère qui est tout enchantée de t'avoir un peu par hasard, et qui te verrait repartir. Pourquoi ? Parce que tu as retrouvé à Paris une amourette de New York. C'est absurde. Absurde et méchant, dit-elle, pendant que Georges s'asseyait devant elle sur une chaise basse et lui prenait doucement les mains, ses chères mains maternelles aux veines bleues un peu gonflées et qu'il baisait avec tendresse. Elle se dégagea, caressant la tête de son fils ainsi que jadis, et avec le ton câlin d'une berceuse, essayant d'endormir en lui une douleur comme autrefois la fièvre. « Vois-tu, mon enfant, si tu veux partir, il ne faut pas aller si loin. Et au lieu de recommencer à imiter Stanley ou M. de Brazza, si j'ai un conseil à te donner, tiens, c'est de venir t'enfermer à Solis avec moi. Tu reverras les vieilles allées de Tilleul où tu as couru tout petit. Ce n'est pas un Louvre, notre vieux Solis, mais c'est plein de bons souvenirs. Nous ferons nos vendanges comme autrefois, si la vigne a encore du raisin, et l'on te trouvera une gentille petite femme parmi les jeunes filles du pays, si Paris ne les a pas toutes fait envoler vers l'allée des poteaux, comme des papillons. « Ma mère, » dit le marquis d'un ton où la tendresse même était un reproche. « Ah, tu te révoltes. Oui, j'ai mis dans ma tête de te marier. Il faut toujours en finir par là, va. J'en parlais tout à l'heure avec M. Norton. » Norton ? Nous sommes des amis aussi, depuis sa visite d'hier. Il me plaît, ce tailleur de chaîne, ce manieur d'homme. Je l'ai quitté sur la plage. Tu sais que je suis matineuse. Je sortais de la messe et je l'ai rencontré qui allait au télégraphe, l'air préoccupé. Je ne sais quelle dépêche il attend. Georges demanda. Et vous avez parlé de moi ? De toi ? Norton a cependant assez de ses propres affaires, qui sont intéressantes, sans s'occuper de celles des autres. Qui n'ont rien de grave. Comment ça, rien de grave? Ton mariage possible, rien de grave, fit la marquise. Pour toi peut-être, mais pour moi. Tu n'as donc jamais pensé à la joie que j'aurais de te savoir avant de disparaître, heureux, là de courir le monde et enchanté de te reposer un peu, enfin, à Solis ou ailleurs. Tiens, demande un jour à Mrs. Norton elle-même, si ce n'est pas le dénouement que sa raison et son amitié te conseilleraient. Je suis une vieille égoïste, mais que veux-tu? Je suis lasse d'être toute seule au logis et de n'avoir de nouvelles que par une lettre de toi, datée de je ne sais combien de mille lieues, ou par une dépêche de l'agent Sabas. Si j'avais su que tu me laisserais toute seule à Paris, vrai, je me serais remariée. Je suis fort bavarde. J'aurais eu du moins quelqu'un pour m'écouter. Allons, va, cher enfant. Si tu as besoin d'être consolé, si tu as quelques chagrins, quelques petites cicatrices cachées, et je devine ta cassure, comme dans le verre de tout à l'heure. Pourquoi aller chercher au Kamtchatka ce que tu trouveras au foyer de Solis? C'est que je ne tiens peut-être pas à la trouver, cette consolation-là, ma pauvre chère mère. Le sourire triste qui accompagnait ces mots donnait à la marquise la sensation que l'état d'esprit de M. de Solis était plus grave qu'elle ne le croyait. Elle en éprouvait une inquiétude nouvelle qui se calma un peu lorsque Georges résuma l'entretien en disant que, consolé ou non, il resterait auprès d'elle à Trouville si la marquise y voulait achever la saison, à Solis si elle voulait partir tout de suite. Après tout, songeait-elle, cette passion pour l'américaine pourrait bien être qu'un feu de paille, et là-bas, dans le tête-à-tête, au fond du château, la mère aurait certainement raison de la mélancolie du fils. Elle n'attendrait même pas si longtemps pour essayer de couper court à ce roman dangereux, et sachant que Mrs. Norton était une honnête femme, la marquise se réservait de faire appel à Sylvia elle-même. Le soir même, sous prétexte de demander à M. Norton des nouvelles de cette dépêche qui le préoccupait si fort, elle pria Georges de l'accompagner à la villa. Madame de Solis n'eût pas désiré faire cette visite que, tout naturellement, comme poussé par une force, le marquis se fut rendu chez Norton, où il se jurait cependant de ne plus reparaître. Et après cette première visite, d'autres visites se succédaient, amenant dans la promiscuité de la vie des eaux une intimité quasi quotidienne, malgré l'inquiétude éveillée de la mère, malgré les désirs de fuite du fils. Norton se livrait, parlant de ce monde d'affaires qu'il traitait, brassait, à distance, qu'il tenait comme au bout du câble transatlantique, inquiet de ce qui s'agitait dans la ville enfumée, Smoky Town, Norton City, qui portait son nom, préoccupé de ses puits de gaz naturels de Pittsburgh, de ses mines de Saint-John, de ses offices de New York. La cité empire, remuant un monde à travers l'Atlantique et ne songeant cependant en réalité qu'à la santé de cette femme pour laquelle il venait quémander, lui, le roi du fer, du pétrole et de la houille, la science du maître de la charité. Il se voyait souvent, Georges et lui, et un jour, le marquis l'avait trouvé soucieux, attendant une dépêche importante, grave. Le marquis allait précisément ce soir-là à la villa, accompagnant Madame de Solis. Norton et Sylvia étaient au salon donnant sur la mer. « Eh bien ?» demanda le marquis. « La dépêche, mon cher Norton ?»«
Rien encore, » dit-il. « J'ai pris en Montgomery de télégraphier encore, deux fois, trois fois. »
Il paraissait inquiet.
« Est-ce une chose qui vous préoccupe plus particulièrement ?» dit Georges, qui semblait éviter de parler à Sylvia, très froide.
Mrs. Norton regardait, tout en causant avec la marquise, les gravures d'une revue américaine.
« Oui, » dit Norton, « je suis étonné que Snap Kings ne m'ait pas donné de nouvelles des mines de Saint-John. Mais je vous avoue, ma chère Sylvia, » dit-il en se tournant vers sa femme, « que ce n'est pas l'Amérique qui m'inquiète le plus vivement aujourd'hui.
Et c'est, » dit-elle en posant sur un guéridon le Harper's Magazine.
« C'est vous, » répondit Norton.
« Moi ?»«
Oui. Vous êtes de plus en plus pensive, souffrante. J'ai bien peur que toute la science de Farjas... »
Georges éprouva une sorte d'angoisse. Jamais Norton, qui s'était confié à lui dans l'intimité, ne parlait tout haut de ses inquiétudes. Le marquis voulait détourner une conversation qui pouvait être pénible à Sylvia. Il n'osait pas.
Mais Madame de Solis, comme si elle eût tout deviné, répondit bien vite en s'adressant à Norton.
« On ne guérit pas en un jour des affections qui datent de loin déjà, mais tout arrive à qui sait attendre. Je suis persuadé que Mrs. Norton retourne à New York, complètement rétablie. Rétablie et heureuse.
Oh, je n'ai pas besoin du docteur Farjas. Pour prédire ça, je suis femme, cela suffit. »
« Je souhaite que vous disiez vrai, marquise, » fit Norton, « car la santé de ma chère Sylvia, le bonheur de Mrs. Norton, voilà ce qui me rend anxieux à toute heure de ma vie. »
« Mon ami, » dit doucement Sylvia qui n'osait regarder M. de Solis,
« je le dis comme je le pense, » continue Norton, « et j'ai le droit de le dire tout haut devant l'ami que j'aime le plus au monde, n'est-ce pas, Georges ?»
Il s'était tourné vers le marquis, resté debout et un peu pâle.
« Et à propos, » ajouta l'Américain, « j'ai à vous parler. »«
À moi ?» fit Monsieur de Solis.
« À vous. De choses graves ?»«
Assez graves.
Et très intimes. »«
Cela veut dire que je suis de trop dans la causerie ?» demanda la marquise.
« Ah, les pauvres femmes. »«
Voilà une mère à qui son fils dit « je vais m'en aller. » »«
Et une femme à qui son mari dit « allez-vous-en. » »«
Être supprimé, c'est notre sort. »
« Rien de ce qui est sérieux ne nous regarde. »«
Allons, Mrs. Norton, si ma compagnie ne vous fait pas peur, voulez-vous venir un moment sur la plage ?»«
On nous envoie promener, eh bien, nous ferons acte d'obéissance. »«
Avec plaisir, » dit Sylvia.
Mrs. Norton avait cependant comme une hésitation à s'éloigner, vaguement inquiète de cet entretien demandé par Norton. Elle sortit sans regarder M. de Solis, qui la salua profondément. Puis dès qu'il fut seul avec Norton, Georges, sans attendre que l'Américain parlât, lui dit avec une sorte d'effusion
« Vous êtes inquiet, décidément, cette dépêche ?»
Mais Richard l'interrompit d'un geste bref.
« La dépêche ? Je n'y pense plus.
Je veux vous parler de vous.
Oui,
de votre avenir. Reprendre notre conversation intime à l'endroit précis où nous l'avons laissée, le jour de notre première entrevue. Vous ne vous en souvenez pas ?»«
Non ?»
répondit Georges, qui prévoyait maintenant une conversation périlleuse et voulait étudier le jeu de son adversaire.
« Eh bien, je m'en souviens parfaitement, moi.
Je vais vous dire où nous en étions restés, » fit Norton, et se passant la main sur le front.
« Il fait une chaleur, vous ne trouvez pas ?»«
En effet. »
Norton prit sur un guéridon un siphon d'eau de Sels, qu'il vida à demi dans un verre de sherry, puis il but rapidement, les lèvres sèches comme aux heures de fièvre.
Ensuite, faisant asseoir Georges devant lui, dans le window, il reprit froidement, résumant une conversation avec la netteté d'un homme d'affaires.
« Vous me disiez qu'arrivé à une date décisive de votre vie, où vous songiez à vous marier, je ne sais quel souvenir vous tenez encore au cœur. Vous rappelez-vous cette confidence ?»«
Parfaitement, » dit Solis.
« Moi, je me suis souvent reporté à cet entretien. » »«
Vous m'avez alors vaguement raconté ce roman. »
Mais il était assez lointain, assez oublié, et je pense perdu dans le brouillard du passé,
pour qu'il vous fût possible de disposer librement de votre existence et de votre cœur.
C'est bien ce que j'ai compris alors.
À peu près, fit le marquis.
Oh, à peu près ou tout à fait,
dit l'Américain avec un peu de brusquerie.
Quand il s'agit du passé, une nuance de plus ou de moins ne saurait compter.
Il n'y a pas de milieu entre la vie ou la mort.
Vous vouliez vous marier.
Donc le passé était enterré bel et bien.
Vous aviez raison.
J'ai beaucoup songé depuis, je vous le répète, à vos confidences.
Je vous aime assez vivement pour seconder vos projets.
Vous cherchez une fiancée.
Eh bien, je vous en ai trouvé une.
Vous ? Dit Georges en le regardant bien en face.
Très froid. L'Américain affectait de sourire et d'un ton net, continuait, en se croisant les jambes et en jouant avec un cigare qu'il ne fumait pas.
« Oh, ce n'est pas Mademoiselle Offenburger. »«
Non. »«
Une charmante jeune fille. »«
Très bonne. »«
Tout à se dévouer à celui qu'elle aimera. »«
Un petit cœur d'or, et avec ce cœur-là, pour dot, 3 millions. »«
Norton, » dit Solis en fronçant le sourcil.
« C'est peut-être trop peu, »
fit l'Américain en souriant, comme s'il se méprenait sur le sentiment du marquis.
« Mais elle peut regarder, comme à elle, une partie de ce que je possède. »
C'est Eva, ma nièce Eva.
Miss Eva.
Elle est assez jolie, je pense. Elle est intelligente jusqu'au bout des ongles. Elle vous trouve assez de son goût pour pardonner bien des choses à Paris, en faveur de ce Parisien qui lui plaît.
Elle vous a dit?
Elle ne m'a rien dit. Mais parce que je suis une espèce de trappeur absorbé dans ses préoccupations et qui doit avoir, vous semble-t-il, toute son attention accrochée au câble transatlantique, je vois fort bien, je devine clairement ce qui se passe et ce que l'on pense autour de moi. Eva est une créature exquise que j'adore. Vous êtes un ami dévoué que j'estime, et en vous unissant l'un à l'autre, je suis persuadé de faire un mariage heureux, s'il y en a.
Miss Eva est en effet adorable.
Une jeune fille exquise, comme vous dites, certainement, mais...
Richard attendait la réponse de Solis, et Georges, embarrassé, devinant une arrière-pensée chez Norton et dans cette causerie amicale, non pas un piège, une épreuve.
Georges hésitait, cherchait une raison de refus.
« Eh bien quoi ? » fit Norton.
« Vous n'allez pas refuser ma nièce.
Vous seriez difficile et vous ne trouveriez pas l'appareil.
3 millions sont-ils une dot insuffisante ?
C'est bien simple, elle en aura 6. »
Le marquis se récria, trouvant là peut-être le prétexte souhaité.
« Vous ne pensez pas, Norton, qu'une question pareille ?»
Richard l'interrompit bien vite. « Je sais, je sais.
Aussi n'en parlais-je que pour vous prouver combien j'aime l'enfant de ma chère sœur.
Ça a grandi à mes côtés. Ça m'a vu pauvre.
Il est bien juste que ça partage avec moi, maintenant que je suis riche.
Mais Sèvra ne manquera pas de partie.
Et je souhaite qu'elle rencontre un homme digne d'elle. »
Norton s'est élevé.
Il n'y a pas à le lui souhaiter. Cet homme-là, le voilà, c'est vous.
Et il frappa sur l'épaule de Solis, resté assis.
C'est impossible, dit le marquis.
Pourquoi ?
Parce que j'ai réfléchi. Parce que les velléités de mariage que je vous confiais ont fait place à d'autres idées.
Vous ne voulez plus vous marier ?
Non.
La vocation du célibat vous a poussé vite,
fit Norton, railleur.
D'ailleurs, et c'est bien naturel, si j'épousais une femme, c'est parce que je l'aimerais.
Eva, toute disposée à vous aimer, saurait fort bien se faire adorer,
répondit Norton.
Mais en vérité, mon cher, je ne fais, en vous parlant aujourd'hui comme je vous parle, que mettre à portée de votre décision cet avenir dont vous vous préoccupiez quand vous vous êtes confié à moi. Je vous entends encore.
Lorsqu'on n'a pas épousé celle qu'on devait aimer, il faut peut-être laisser au hasard le soin de nous faire aimer celle qu'on épousera.
N'êtes-vous plus de cet avis ?
Georges sentait bien qu'en devenant pressant, en la poussant ainsi dans ses retranchements intimes, Norton avait un but. C'était là comme une sorte d'escrime morale, dans laquelle le mari cherchait à faire découvrir son ami,
et Solis, maître de lui, jouait serré, affectant de ne pas comprendre.
« Non, je ne suis plus de cet avis.
Plus tout à fait. J'ai réfléchi, je viens de vous le dire, je veux rester libre. »«
Libre !» fit Norton.
« Un honnête homme qui épouse une honnête femme double sa liberté d'un dévouement. Et c'est par là surtout qu'il apprend cette vérité, qu'il n'est pas de liberté sans devoir.
Ce mariage, c'est une pensée qui m'est venue tout à coup, comme viennent les idées heureuses, par illumination. Oui, je dis bien.
Il assurait pourtant, ce mariage, et le bonheur d'Eva et le vôtre. Je l'avais rêvé, je le voulais.
Oui, oui.
Il appuyait sur le mot, je le voulais.
Et morbleu, il faut pourtant que vous vous mariez.
Pourquoi ? Dit Georges.
Norton s'animait peu à peu.
Ah, pourquoi, pourquoi ?
Toutes les raisons que vous me donnez n'en sont point.
Vous n'allez pas me dire que vous n'épouserez pas Eva parce qu'elle est américaine.
Madame de Solis, qui est pétrie de préjugés français contre les Américains, me disait il n'y a qu'un moment qu'Eva est pour elle la jeune fille idéale.
Ma mère savait-elle que vous deviez me parler de Miss Eva ?
Non, sur ma parole.
Et si je vous nomme la marquise, c'est que je suis certain qu'elle serait heureuse, elle aussi, de vous garder auprès d'elle, mariée, casée, fixée.
Si vous aviez dit à la marquise de Solis que Miss Meredith compte sa fortune par millions,
ma mère vous eût répondu que les héritières de ce genre ne sont pas faites pour les gentilshommes sans autre fortune que leur nom.
Richard se mit à rire un peu nerveusement.
Leur nom, leur blason, leur honneur.
Et que diable, vous n'allez pas me jeter à la tête des millions que nous avons gagné loyalement, comme vous autrefois vos titres.
La sueur vole sang, mon cher.
Et puisque je n'ai pas, comme tant d'imbéciles parvenus, la sottise d'être vain de ma richesse, n'allez pas au moins vous aviser de me la faire regretter, cette richesse-là.
Si je pense à vous pour Eva, c'est que je veux que mon enfant soit à la fois heureuse et honorée, et que, je vous le répète, je l'aime comme je vous estime.
Vous êtes la générosité même, mon cher Norton, mais je vous l'ai dit, et je vous le redis encore, fit Monsieur de Solis, je ne veux pas me marier.
Vous ne voulez pas?
Non.
Est-ce bien parce que vous voulez conserver votre liberté?
Comment?
Demanda Georges un peu hautain.
Ne serait-ce pas plutôt, dit Norton,
en se plantant devant Monsieur de Solis,
parce qu'en réalité vous n'êtes plus libre?
Je ne comprends pas,
dit le marquis froidement.
L'amour d'autrefois, cette passion que vous avez laissée je ne sais où, peut-être en Amérique, qui sait, l'avez-vous vraiment oublié?
Ah, vous m'avez à peu près raconté cette histoire-là, mon cher marquis. Il ne fallait rien me dire si vous ne vouliez pas me voir un jour ou l'autre, me mêler de votre vie.
Georges souriait.
Ma vie n'a rien de bien mystérieux, et il vous est loisible de m'interroger.
Eh bien,
si... Pour m'expliquer à moi-même pourquoi vous refusez le parti que je vous offre, je vous demandais si vous aimez toujours la femme que vous avez aimée, et si cette femme vit encore, et où elle est.
Me répondriez-vous franchement, sans hésitation?
Je répondrais franchement, loyalement, si ce n'était pas aussi le secret d'une autre.
Norton, nerveux, haussa les épaules, et comme pour se contraindre au calme, mit les mains dans ses poches, arpentant le salon à grands pas, et se retournant pour regarder M. de Solis qui, debout, restait impassible. L'Américain qui maniait les hommes et le fer redevenait pour un moment brutal et laissait, avec des halètements de locomotive, exhaler ses doutes.
Oui, ah, parbleu, oui, d'une autre, voilà le mot.
Et voilà bien aussi ce qui fait que votre refus m'est expliqué. Comment épouseriez-vous Eva si vous en aimez une autre?
Est-ce qu'un homme d'honneur donne sa main à une femme quand il a donné son cœur à une autre?
L'autre, l'autre.
C'est celle-là l'obstacle.
Et elle est là, parbleu, l'autre. Devant vous, aujourd'hui comme hier, maintenant, éternellement, toujours. Vous y pensez encore, vous ne pensez qu'à elle.
Vous vouliez vous marier, me disiez-vous, il y a quelques jours, pour l'oublier, l'autre.
Allons donc, est-ce qu'on oublie?
Et comment l'oublieriez-vous quand vous l'avez revue?
Car vous l'avez revue, j'en suis certain.
Elle est en France, évidemment, en France.
Qui sait, à Trouville, peut-être.
J'aurais, si elle était ici, comme vous le dites, d'autant plus de mérite à m'éloigner puisque je la fuirais. Et je vais m'en aller à Solis pour toujours,
répondit doucement Solis.
Vous, partir? Et comment voulez-vous que j'épouse Miss Eva? Elle est trop jeune, trop avide de vie pour que je lui donne à choisir entre les deux existences qui me sollicitent, ou les journées d'un être lassé accroupi au coin du feu d'un vieux château des Landes, ou l'existence de colis d'un enfant perdu de la science, aujourd'hui à Trouville, demain à Tombouctou, si Solis lui fait trop peur.
Norton enfonçait son regard clair dans les yeux calmes du marquis.
C'est pour cela seulement que vous refusez?
Pour cela seulement, dit Georges.
L'Américain n'était pas convaincu.
Toutes les réticences du marquis, il les sentait, et se disait que sans doute, si M. de Solis parlait de se remettre en chemin,
c'est qu'il avait peur de lui-même. Une fuite est un aveu, souvent.
Norton allait, du reste, essayer de pousser plus loin l'entretien, lorsqu'un bruit de voix vint du côté de la porte.
Un domestique annonça « Monsieur Montgomery ».
Et essoufflé, très rouge, une dépêche à la main, Montgomery entra, disant à son associé en hochant la tête
« Ah, Norton, mon cher Norton !»«
Eh bien ?» fit Richard, très froid.
Montgomery lui tendait le papier bleu, encore cacheté.
« La dépêche, mauvaise nouvelle !»«
Vous savez ce qu'elle contient ?»«
Oui. » On avait adressé la nouvelle en duplicata à moi et à vous en même temps. J'ai lu ma dépêche.
Mais quoi donc ?
Demandait Georges.
Les mines de Saint-John, près de Norton City,
commença Montgomery. Norton, qui avait décacheté lentement le papier bleu, contenant deux lignes imprimées, compléta la phrase d'un ton très simple,
inondé.
Puis relisant la dépêche, grosse de conséquences et de périls dans sa brièveté dramatique.
Rapide mesure à prendre, venez.
L'Américain repliait le papier bleu très doucement, comme un général recevant l'ordre de charger, et il dit, l'œil fixé sur un point invisible, comme par-delà l'Atlantique.
Inonder les mines.
Ce serait un désastre.
Ma fortune, celle d'Eva.
Et souriant à Georges d'une façon étrange, presque fataliste,
Dieu veuille que je ne revienne pas en vous disant qu'Eva n'a plus rien,
et que ces millions ne sauraient gêner les gentilshommes dédaigneux. Et ne pouvant retenir un mouvement de révolte contre l'imprévu qui venait là brouiller son jeu, jeter sur le chemin un obstacle inattendu,
« Saint-John inondé, tonnerre !»
dit-il. Mais d'un mot, son associé le ramenait à la situation, à la nécessité de prendre en partie sur le champ.
« Eh bien ?»
demanda Montgomery.
Eh bien,
et Norton regarda sa montre.
Le bateau de Southampton est parti, mais demain. Venez-vous au télégraphe, Montgomery?
Au télégraphe, dit George.
Oui,
répondre là-bas qu'on m'attende à New York par le prochain transatlantique.
Vous partez?
Nécessairement.
Je veux voir les choses par moi-même.
Vous partez seul? Demanda Montgomery.
Je n'en sais rien,
répondit Richard. Cela dépend de Mrs. Norton.